je trouve qu'ils sont des merveilles pour l'un, la puissance du traumatique dans un destin, et puis le Shanimoto pour la puissance des sensations. C'est un livre qu'on lit en respirant des fleurs jusqu'à en étouffer, littéralement. Et en écrivant Bombay, j'ai souhaité plusieurs fois retrouver quelque chose de ces sensations. C'est ce que j'aurais envie de donner à mes lecteurs.
C'est réussi. Alors, l'émission va bientôt se terminer. Nous allons parler aussi, Marie Saglio, vous avez une rencontre à nous annoncer, parce que là, c'est proche, je crois que c'est le 17 juin.
Non, c'est tout à fait. Alors, merci beaucoup de me donner cette occasion. Oui, je voulais annoncer la quatrième édition des Fabriques des Écritures Alternatives, qui est un très bel événement qui se reproduit donc chaque année en juin au MUCEM, avec la complicité d'un certain nombre de laboratoires, dont le laboratoire Norbert Elias, et qui permettra plusieurs tables rondes avec des écrivains, mais aussi des chercheurs. Et donc, ce festival Focus a lieu entre le 15 et le 18 juin, et j'aurai le plaisir donc d'être à une table ronde sur la fiction et le pouvoir de la fiction le 17 juin à Marseille, au MUCEM.
Peut-être que ça sera annoncé sur le site de votre éditeur.
J'espère.
Merci à vous, Marie Saglio, pour Bombay. C'est un roman et c'est paru chez Serge Safran, éditeur. Merci à vous tous.
Merci beaucoup.
C'était l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec Flo Descailloux qui va nous réserver le mot de la fin. Ça va être une musique.
Et oui, mais j'avais au moins trois musiques, mais il y a une émission derrière et tu n'as pas trois heures d'émission. C'est bien dommage parce que c'était passionnant. Voici, j'ai choisi en désespoir de cause une actrice et danseuse de formation classique qui est également une chanteuse douée qui caracole en tête des ventes tout en poursuivant une carrière à la télévision. Vous devez la connaître. Il s'agit, pardon pour la prononciation, de Rajeshwari Sachdev. Et comme vous avez parlé de la situation des femmes, ce titre, ça s'appelle Mahavantetiyan, c'est-à-dire mère et fille. La maison paternelle est un nid dont un jour les oiseaux s'envoleront. Ils partiront très loin, nous ne reviendrons pas, mère. Mère, pourquoi as-tu fait des filles? Et ça date de 2003. Elle est très à cheval sur le rôle des femmes dans la société indienne.
L'autre soir, à l'heure de la verte, je suis entré dans votre cage à perroquet pour en étrangler un. J'aurais bien dû les étrangler tous. Le poète qui ressasse dans son gros bec toutes les foutaises du cliché, le peintre sempiternel aux pinceaux estropiés par les vieilles cisailles de l'école, et le musicien de barbarie qui promène son prix de Rome comme un écriteau d'infirme. De la blague, tout cela, camarade. Car pendant que vous chantez le bleu, les autres broient du noir, et pendant que vous faites de l'art, d'autres font de la misère. Tas de pitres en redingote, dont les boniments couvrent comme l'orgue de Fualdès les clameurs des assassinés. Eh bien non, tête vide, ventre de son. Il n'y a pas que Montmartre, le moulin de la galette n'est pas la clé de voûte de l'édifice social. Il y a encore les écoles et les maisons de fous où l'on broie les cervelles, les usines où l'on écrase les muscles, farines épouvantables, pâtes humaines que pétrissent à leur gré la bureaucratie et le capital. Des soupiraux de la vieille bâtisse où nous logeons. Jusqu'à ce qu'on la démolisse, sortent les hans des boulangers en train de battre de l'homme. Poète, mets ce cri dans tes vers. Peintre, trempe tes pinceaux dans ce sang. Musicien, note le bruit de cet écrasement. Au-dessus de votre art, il y a la question sociale. Et au-dessus de votre cabaret Louis XIII, il y a l'église du Sacré-Cœur qui grandit sur vos crânes. Que la pensée qui est dedans éclate comme une mine en voyant au diable des morceaux de Jésus sanguinolent. L'heure est venue où toutes les idées doivent être tranchantes, comme des épées. Dans cet air orageux et rouge où grondent les révoltes prochaines, le je m'en foutisme ne saurait vivre. Copain Salis, transportez donc pour voir votre carriole d'arracheur de boc sur le bord de la grande Seine jaune. Ça sera bien le diable si vos poètes ne sentent pas passer dans leurs cheveux un vent de colère en écoutant la voix du fleuve, ce cimetière qui marche. Eût dit Pascal. Un soir, je vous le prédis, les vers, les musiques et les pinceaux s'arrêteront hagard, au cri suprême d'un suicidé.
Bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Libertaire. Nous sommes donc sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, pour cette nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission réalisée par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, le COPS en abrégé, qui publie notamment Fragments, revue de littérature prolétarienne, qui en est d'ailleurs à son sixième numéro, le septième est en gestation avancée. Nous venons donc d'écouter Jean-Luc de Baptiste, qui interprète l'ensemble des textes d'un CD, Les Poètes du Chat Noir. Ce CD d'ailleurs, il faut signaler, fait partie d'une série Poètes et chansons, collection Marc Robin, et qui date de 2003. Alors, aujourd'hui, comme dans toutes les émissions précédentes, à la technique Frédéric, du groupe La Commune de Paris, de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, nous sommes donc trois dans le studio du Clubs pour présenter ce nouveau rendez-vous qui est entièrement consacré à François Lebert. François Lebert, ouvrier métallurgiste, dont les éditions Prolis, on vous l'avait annoncé la dernière fois, ont été créées par notre association. Et nous avons publié en juillet 2022 un premier ouvrage qui s'intitule « Ligne de front » et qui est précisément de François Lebert, ici présent en chair et en os. Alors, nous allons donc longuement aborder la trajectoire de François et en même temps l'architecture, la présentation de son ouvrage qui comprend à la fois des textes, des poèmes et des dessins, une présentation graphique qui est très importante. Nous terminerons par quelques mots pour revenir sur le sommaire du numéro en cours de diffusion, le numéro 6, et nous aborderons rapidement le futur sommaire du numéro 7 qui devrait être disponible fin juin 2023 de Fragments. Voilà. Enfin, notre dernière plage musicale sera consacrée à un disque qui reprend les écrits de Joseph Pontus et que François Lebert nous présentera. Si nous avons le temps, nous mettrons un petit zoom sur quelques livres qui viennent d'être publiés ou qui vont être publiés et que nous recommandons à la lecture pour nos auditeurs et auditrices. Voilà. Alors, je crois que nous pouvons entrer dans le vif du sujet avec François. Et avant d'aborder le cheminement qui te conduira de ton métier ouvrier métallurgiste à l'écriture et au dessin, peux-tu nous situer tes origines sociales ?
Bah, c'est pas très compliqué, c'est même très simple. Je suis vraiment du peuple d'en bas et j'en suis fier. Enfin, donc mon père était un fils d'une famille maraîchère sur Vendôme et ma mère est une fille d'agriculteur, une petite exploitation. Alors, je sais plus trop si c'est l'Orne ou la Mayenne, c'est aux confins de l'Orne, la Sarthe et la Mayenne. Donc vraiment, ce sont des gens de tout en bas. Mon père, pour gagner sa vie, travaille à l'usine. Et puis ma mère, elle a élevé mon frère, ma sœur et moi. On était très proches les uns des autres. Donc trois enfants à la suite. Je pense que ça occupe déjà pas mal. Voilà. Donc, mon père, fils de maraîcher, il a fait des études, mais je crois que c'est le certificat d'études où ça s'est arrêté. Il était capable d'aller plus loin. Mais bon, pour ne pas faire de jaloux, il avait un frère aîné et donc il a plutôt donné un coup de main sur l'exploitation maraîchère de ses parents. Alors tout ça.
Donc des origines de Mayenne, c'est ça et...
Alors les origines de Mayenne, oui, c'est un couple d'agriculteurs. Elle a beaucoup de frères et sœurs comme ça se faisait à l'époque. Je crois que c'est environ une dizaine, je ne me rappelle plus très bien. Et voilà. Et mon père, il avait un frère et deux sœurs. Quatre enfants. Voilà.
D'accord. Donc, en ce qui te concerne plus particulièrement, tu passes le BEPC ?
Oui, c'est 75.
C'est-à-dire ce que c'est le BEPC, hein. C'est un brevet d'études élémentaire premier cycle.
Hein. Ouais, c'est ça.
À l'époque, il se passait à la fin de la troisième.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. De justesse, hein. Très justesse. Je me souviens, j'avais eu 2,5 en maths. Au rattrapage, ça a marché, heureusement. Par contre, en français, j'avais de bonnes notes. Quoi. Ouais, là, j'étais bon.
Et tu as passé ensuite un CAP.
Alors, le CAP... Alors là, c'est un peu plus compliqué. D'abord, je me suis engagé dans l'armée comme j'avais pas de... Ah ben non ! Oh, pardon, excuse-moi, tu as tout à fait raison. J'ai fait un apprentissage de taulier et réparateur en carrosserie. C'est mon papa qui m'a guidé là-dessus, parce qu'à l'époque, moi, je ne savais pas du tout quoi faire. J'étais, je ne sais pas comment dire, quoi. J'avais pas d'idée. Mon père, il est parti de ma passion pour l'automobile et il a fait des démarches pour que je trouve un emploi d'apprenti dans la taulerie carrosserie. Et j'ai passé le CAP et je l'ai obtenu. Oui,
d'accord.
C'est ça. Voilà.
Ça dure un an, c'est
deux ans.
Deux ans, d'accord.
Deux et trois ans, enfin c'est au moins deux ans, je crois. Oui, c'est deux ans.
Et là, tu as à la fin de ce cycle, tu as 17 ans, 18 ans.
Voilà, 17 ans et demi. Ah oui, parce que j'ai eu de la chance, j'ai passé le BEPC à 15 ans, 75. Mmh. Et donc, j'ai 17 ans et demi.
Et donc, là se pose ce qu'on dit, il faut entrer dans ce qu'on nomme la vie active, d'ailleurs, comme si le monde extérieur au travail se résumait à des activités passives et secondaires. Donc, il te faut rentrer dans la vie active.
Exactement.
À l'issue de ce CAP.
En fait, je pense que j'étais vraiment pas mûr à 17 ans et demi. Je savais pas du tout quoi faire. Je voulais pas du tout retourner dans un atelier. J'avais trouvé ça quand même difficile, l'apprentissage de tôlerie. Et donc, quand on n'a pas du tout de référence, donc le truc, c'est de s'engager dans l'armée. Je me disais dans ma tête, en plus il y avait aussi une espèce d'idée de solidarité, je me disais que peut-être dans l'armée j'allais trouver, je me souviens qu'à l'époque ça peut-être vous faire sourire, mais j'écoutais souvent Les routiers sont sympas, et il y avait une notion de solidarité là-dedans qui me plaisait, que je pensais éventuellement retrouver en m'engageant comme militaire, et en même temps de me nourrir et de subvenir à mes besoins, quoi.
Et donc, ça va durer deux ans et demi.
Voilà. Et au bout de quelques mois, je vais comprendre facilement que c'est pas du tout le genre de vie que j'ai envie de mener. Les contraintes, elles sont 24 heures sur 24. Il n'y a aucun instant de liberté quand on est militaire. Hein. On est à la portée des dégradés en permanence. Et donc, au bout de trois mois, j'ai compris que c'était pas mon truc. Mais comme des petites règles dans la tête disent que je dois respecter un contrat, j'ai respecté mon contrat, mais par contre, après, je suis parti. Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, tu n'as pas rempilé. Ouais.
Non.
Tu n'as pas choisi la carrière de militaire.
Pas du tout.
Et nous ne serions pas là aujourd'hui pour aborder cette question. Voilà. Bien. Donc, après cette période, tu vas... te retrouver dans le secteur automobile, si j'ai bien compris,
voilà,
à Vendôme.
Exactement, exactement. L'usine où je vais passer 37 années.
Donc c'est quoi exactement tu peux en aborder un petit peu. C'est quelle usine?
C'est de la sous-traitance automobile. On fabrique des colonnes de direction pour tout véhicule, des voitures, des petites fourgonnettes. Et voilà, c'est là que je vais passer les 37 ans. Je le savais
donc
pas
c'est
encore.
C'est une usine de sous-traitance qui bosse pour quelle
Pour toutes les marques.
Pour toutes les marques, d'accord.
Essentiellement des marques européennes, mais il y a aussi quelques marques étrangères. Mais oui, c'est de la sous-traitance auto.
Et vous faites quoi exactement, les sièges?
Colonne de direction, donc c'est le système de mécanisme qu'il y a entre le volant et le système de direction.
D'accord.
C'est la colonne de direction, les cardans. À la base, c'est juste le joint de cardan. Voilà.
Et toute ta carrière professionnelle sera...
Là, je ne le savais pas à l'époque. J'ai 21 ans, pas. Je suis un enfant, je rentre, j'ai 21 ans, je vais découvrir la ville. Ce que je voudrais quand même attirer l'attention là-dessus, c'est qu'on est donc 81, c'est déjà en travail, pas temporaire, mais comment dire... on passe par une agence d'intérim, intérimaire.
D'accord.
Ah pardon, voilà, je voulais dire ça. Parce que déjà, on commence par travailler en tant qu'intérimaire, et la loi à l'époque disait qu'au bout de 2 ans de contrat, on était obligé d'être embauché, et j'étais embauché dans les 2 ans qui ont suivi. Mais au départ, j'étais un intérimaire.
D'accord.
C'est-à-dire semaine par semaine. Je savais si j'avais du travail, une semaine sur l'autre, quoi.
Voilà. D'accord, et à l'issue de ce projet vieux années, t'es intégré dans le personnel.
J'ai compris vite, en plus à l'endroit où je travaille, je suis manutentionnaire, ils ont besoin de quelqu'un, donc moi j'avais vraiment besoin de l'emploi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir cet emploi, j'en avais envie, et ça a marché, ouais.
Très bien. Merci François donc pour cette rapide introduction. Nous allons faire une première pause musicale en écoutant Chanson courte, qui est un texte, une chanson des Chanteurs-Livreurs. Voilà.
Je n'étais pas fier, t'en souviens-tu, de ce matin clair dans un coin perdu. Nous n'étions que deux et c'était tant mieux, pour nos quatre mains c'était très bien. T'en souviens-tu, dans un coin perdu, et c'était tant mieux, c'était très bien. On s'est tout appris, le moindre détail, on a tout compris sans se faire de mal. Toi tu m'expliquais tout ce que tu savais, que je ne savais pas, et vice versa. Quand on a tout su, du moins croyait-on, nous avons voulu d'autres leçons. Nous sommes partis découvrir la vie, que l'on est studieux quand c'est un jeu. Du moins croyait-on, d'autres leçons, découvrir la vie, quand c'est un jeu. Depuis il y a eu d'autres matins, on a tout connu, joies et chagrins, mais on n'oublie pas ces moments-là, ça remonte à quand? Alors aujourd'hui pour le plaisir. On est reparti vers nos souvenirs. J'en ai gardé là quand j'ouvre les bras, qui sont à cueillir pour un sourire. Alors aujourd'hui pour le plaisir, on est reparti vers nos souvenirs. J'en ai gardé là quand j'ouvre les bras, qui sont à cueillir pour un sourire. Alors aujourd'hui pour le plaisir, on est reparti vers nos souvenirs. J'en ai gardé là quand j'ouvre les bras, qui sont à cueillir pour un sourire.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité. Et nous sommes toujours dans le cadre de l'émission, et pourtant elle existe, cette littérature consacrée à la littérature prolétarienne, à cette littérature qui vient d'en bas et non pas des chemins balisés de l'édition habituelle. Alors, nous allons reprendre notre entretien avec François Lebert, que nous avons présenté, qui s'est présenté lui-même dans notre première partie. Et nous allons essayer maintenant de voir comment, François, tu es donc un ouvrier dans la métallurgie, et puis, avec un engagement au sein de l'entreprise, enfin, tu fais ton travail, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu développes une pratique artistique, c'est-à-dire l'écriture et le dessin, et comme apparemment une nécessité qui s'impose. Quel est le mécanisme qui se passe dans ta tête ou dans ta vie personnelle qui t'amène là ?
Bon, alors d'abord, au départ, je suis un tout petit enfant, j'ai 21 ans, je disais tout à l'heure, j'étais déjà pas mûr à 17 ans et demi, je pense qu'à 21, j'étais encore très très jeune. Donc je rentre dans l'entreprise, donc il se passe, donc c'est 2-3 ans avant d'être embauché, donc là pendant 2 ou 3 ans, on cherche pas à comprendre, on bosse comme un dingue pour essayer de décrocher ce fameux CDI. Bon, et puis après, alors si tu parles de ça, j'ai passé pratiquement 20 ans, donc en 2-8, hein, c'est les horaires lourds au niveau social, mais ça me convient un peu bien parce que je suis plutôt de nature solitaire et donc voilà. Donc je passe 20 ans, il se passe pratiquement.
Ce que tu appelles en 2-8, c'est matin, après-midi,
voilà,
c'est ça,
voilà,
c'est
ça, exactement. Oui, dans l'entreprise, on travaille en 2-8, c'est-à-dire que oui, il y a une équipe du matin, une équipe du soir et une équipe de nuit, mais qui n'a rien à voir, quoi. Voilà, c'est soit du matin, du soir, ou alors on fait uniquement la nuit. Bon, heureusement, je n'ai jamais fait la nuit, parce que je pense quand même que là, c'est très très dur. Ça m'est arrivé une fois ou deux de travailler de nuit, j'ai vu que c'était vraiment pas drôle. Donc 2-8, mais 2-8, c'est déjà lourd. Hein. Ça fait entre autres, en gros, 5h du matin, 13h30, et puis 13h30, 21h ou 22h. C'est lourd.
Et, c'est un rythme qui change toutes les semaines, c'est ça ?
Voilà, par semaine, c'est par semaine, toujours par semaine. Et oui, par rapport à ce rythme, ça a des conséquences. Hein. Les horaires de repas, c'est ça qui est très dur, parce que ils sont jamais les mêmes. Donc à la fin, j'étais arrivé, moi j'emmenais mon casse-croûte sur place et je préférais manger sur place parce que, par exemple, le midi, si tu finis à 13h30, tu rentres chez toi, tu prends une douche, ça te fait manger vers 14h30, moi, c'est impossible. Bon, les horaires, c'est dur et ça pèse. Et aussi, je voulais parler sur la vie sociale. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui sort très beaucoup, mais quand même, justement, là, j'ai pas le choix. Aller voir un film le soir quand t'as travaillé le matin, c'est pas facile. Et quand tu travailles du soir, c'est pas la peine, tu finis le boulot et le film est déjà commencé. Donc voilà. Donc voilà. Et pendant 20 ans, je vais vivre cette vie-là. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je bouffe, je dors, je prends une douche et je repars. Bon, je m'intéresse un peu à la culture quand même parce que au fond de moi, toujours, là je me souviens des apostrophes, là j'ai revu dernièrement des DVD, je prenais un grand plaisir à regarder avec Pivot, c'était quand même vraiment formidable. Il arrivait à montrer des écrivains, les rendre vivants, et donc de temps en temps je lisais ça. En même temps, j'avais une vie avec des copains, je faisais la fête. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais... Donc tout ça s'entremêlait, donc je pensais pas vraiment être un artiste un jour. Même dans mes rêves les plus fous, hein, j'ai jamais pensé à ça. Puis au bout de 20 ans, là je pense que c'est le corps qui a dû réagir. J'ai eu un problème de santé sérieux, qui était sérieux. Bon, avec le recul, c'était pas si grave que ça, mais déjà, le fait de n'avoir jamais eu de problème de santé et d'un seul coup de se retrouver bloqué avec une douleur intense, et elle a été très longue à diagnostiquer, cette douleur. Ça aussi, ça a été une souffrance, parce que c'est bien joli quand on souffre, mais de ne pas savoir d'où et de quoi. Et c'est la première fois au niveau du travail que je ne pouvais plus travailler. J'étais arrêté un an en tout, hein, en gros un an. En fait, c'était juste une tendinite au niveau du pouce. Et donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais je vais perdre mon boulot, c'est pas possible. Et donc, j'étais toujours quelqu'un de plutôt solitaire. Il fallait que je trouve, j'avais au fond de moi envie de dire aux gens que c'était pas de ma faute, que je, de dire que, voilà. Et donc, comme à l'école, j'étais un peu le Guy de Graines, je dessinais des voitures. Tout le temps. Mais que des voitures. Problème de confiance en soi, j'avais trouvé ce truc de dessiner des voitures et je ne dessinais que ça, parce que je pensais que je n'étais capable que de ça. Et là, du coup, avec la douleur, l'envie de s'adresser au monde, l'envie de se dire, et l'envie de, pas de se justifier, mais de dire c'est pas de ma faute si je suis malade, bah, j'ai trouvé cette idée du dessin. Donc voilà, et vraiment c'est magique. Donc au départ, c'était un dessin de main noire. Ça m'est venu comme ça. C'était le symbole le plus simple et le plus explicite pour moi. Donc une main noire. Et puis avec une phrase. C'est-à-dire que c'était pas un dessin unique. C'était un dessin qui fonctionnait avec une phrase, avec un jeu de mots qui tentait d'exprimer ma souffrance. Et donc je fais ça. J'en ai fait 30, 50. J'ai montré ça à des amis parce que pareil, sans prétention aucune, je voulais savoir si ça fonctionnait, si les autres comprenaient ce que je disais. Et ça s'avérait que c'était bon. Et donc, bon, alors après, je me souviens plus du temps, ça devait être vers 2003-2004. Donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, 20, 30, 50, voire plus. Et puis un jour, j'ai présenté ça à une éditrice et elle m'a proposé de l'éditer. Bon, ce qui était un peu le rêve de ma vie, hein, mais en même temps, j'étais très, très... Je sais pas, j'ai mis du temps. Hein. Avant de dire oui, j'ai mis du temps. J'ai mis un mois ou deux. Après, il y a eu tout le travail de préparation des dessins, et puis un jour, le livre est sorti. Bon, bah, c'était quand même une belle victoire par rapport à tout ce que j'avais vécu, et voilà.
Tu peux nous dire le titre de...
Alors, le titre, c'est tout un programme. C'était pas très drôle, parce que bah, c'était le fruit de mes réflexions. Hein. C'est « Anthologie d'un désespoir industriel ». J'en étais très content. Et j'aime beaucoup la couverture, parce que sur la couverture, il y a le mot « liberté ». C'est le mot de ma vie, ça, parce que... Même en travaillant en usine, on peut peut-être, même souvent, rêver de liberté.
Voilà. Et donc, c'est à la fois donc, la découverte, appropriation du dessin.
Oui.
Okay. Tu dis avec un mm-hmm. texte, une légende. Mm-hmm.
Oui, toujours.
On ne sait plus
toujours.
Si c'est la légende, d'ailleurs, quand on D'accord. regarde qui accompagne le dessin ou vice-versa. Mais bon, c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est qu'il y a une réponse de l'un à l'autre. Mais tu ne te limites pas au dessin. Tu fais aussi des textes, des poèmes.
Bah d'abord, au départ, c'est quand même plutôt le dessin. Ouais, ouais. Et après, alors là, c'est parce que ça correspond à ce moment-là, je vais rencontrer une association dans le Vendômois qui s'appelait le Cercle des Poètes Retrouvés, qui va me faire découvrir la poésie, parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'avoue qu'à 20 ans, on m'aurait parlé de poésie, j'aurais plutôt tendance à rire bêtement. Et là, je vais découvrir, puisqu'à chaque soirée, on découvrait un auteur qui était présenté par les membres de l'association. Et donc, je vais découvrir la poésie et ce qui va avec le goût de la liberté, c'est-à-dire de la liberté d'expression, quoi, d'utiliser les mots pour être libre. Et ça va vraiment me... Ouais, là, tout va changer. Parce que au départ, c'est plutôt le dessin simple que j'essaye d'articuler avec une phrase. Et après, je vais me mettre effectivement à écrire des textes. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Aujourd'hui, j'écris beaucoup plus et beaucoup plus facilement que de décider. Mais les deux vont ensemble. Je dessine toujours. Mais en majorité, c'est plutôt des textes. Tous les jours, j'écris des dessins. Il n'y en a pas tous les jours.
Et la place du, on comprend bien, une association, un découvert de la poésie, et la place de la lecture dans tout ça, parce que quand on regarde ce que tu lis, on a l'impression que t'as été aussi un boulimique de lecture, non ?
J'ai aimé ça. Il y a eu plusieurs périodes dans ma vie. Alors là, c'est extraordinaire. Je vais remonter à mon enfance. Dans mon enfance, mes parents, mon père était un grand lecteur. Il avait une grande bibliothèque, des livres de poche, puisque mon père était ouvrier. Il n'avait pas des revenus, évidemment, inextensibles. Et donc, il avait plein de livres de poche, dont je comprenais des fois même pas le titre. Je plaisante un peu. Et à chaque anniversaire, il nous offrait un livre. Mais alors, les livres étaient choisis. C'était Jules Verne, Balzac, il y avait Giono. Donc, et en plus, alors là, c'est un autre détail, mais bon, ma mère avait un comportement un peu dur et je n'avais pas le droit de sortir le soir. Donc, du coup, je me réfugiais dans la lecture. Et donc, du coup, ça avait une influence sur mes lectures, sur mes notes à l'école, parce qu'évidemment, en orthographe, à force de lire, j'avais des meilleures notes. Par contre, j'étais un petit peu prisonnier, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Et oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Jules Verne. Balzac, c'était un peu plus compliqué. Je plaisante un peu parce que Balzac, je trouve que c'était un peu dur pour, je sais pas, j'avais vers 12 ans. Je rentrais pas complètement là-dedans. Mais Jules Verne, oui. Et Giono, c'était Manon des Sources, je me rappelle.
Espagnol.
Oh, pardon. Ouais, excuse-moi. Ouais. Manon des Sources, ça, j'en suis sûr. Ouais. J'ai lu. Bon, après, il y a eu toute la période vers la vingtaine d'années où je sortais avec des copains. Je lisais, mais c'est comme où je sortais beaucoup. J'avais vraiment. Et plus le travail à l'usine, les deux faisaient que je lisais très, très peu. Après, il y avait. Bon, je lis aussi beaucoup de magazines. Hein. C'est les magazines. J'étais abonné à Lire et tout ça. Je lisais beaucoup de magazines. Lire vraiment. Là maintenant, que j'ai cette chance d'être à la retraite, je lis. En gros, je suis à 100 bouquins par an. Mais à l'époque, j'y étais pas. Voilà.
Et donc, la lecture qui vient progressivement.
Ouais.
Hein, en gros, quand tu te mets à cette rupture dans ta vie,
oui.
Tu as en gros la quarantaine, un peu plus.
Ouais, exactement. Quoi, 40, exactement, 42, 43. 42. Ouais, c'est ça.
Tu vas donc pratiquer.
On change de vie.
Au niveau des. Et au niveau diffusion, donc tu as parlé. De cet ouvrage, mais est-ce qu'entre-temps, tu communiques avec des associations qui publient ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Le seul lien, c'est l'association de poésie, puisque à eux, je leur avais montré mes textes et mes dessins, et ils avaient été enthousiastes. Oui, ça je...
D'accord, donc c'est un travail un peu replié,
absolument.
Solitaire,
absolument.
Qui va déboucher sur...
J'avais fait quelques tentatives à Vendôme. Il y avait une jeune nana ambitieuse qui avait voulu tenter une galerie d'art. J'avais été la voir et d'ailleurs c'est elle qui m'a donné les coordonnées de l'association de poésie. Bon, pour le reste, non, ça n'avait pas. Bah, c'est difficile hein, les relations avec un éditeur quand on n'y connaît rien du tout et qu'on est. Voilà, j'avais pas de référence. Hein, je suis complètement autodidacte. Donc,
même les revues, c'était pas.
Non.
Parce que bon,
non. On
a par exemple consacré dans la revue Fragments, dans un de nos numéros précédents, on a consacré un dossier à Gérard Lemaire, qui est décédé en 2016. Il a écrit 10 000 poèmes. Il y a d'ailleurs un bouquin qui vient d'être réédité par son épouse. Mais il a écrit dans près de 200 revues.
D'accord.
Donc, toi, ça n'a pas été un.
Non. Pas du tout.
Une rencontre, quoi.
D'accord. Pas du tout. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais je voudrais quand même le signaler. J'ai écrit dans le courrier des lecteurs de certaines grandes revues, style Télérama, Les Inrocks, et j'ai été publié.
D'accord.
Mon plus grand succès dans ce domaine-là, c'est d'avoir été publié pour le même texte, à la fois dans Les Inrocks et dans Télérama. C'était à propos d'une réforme des retraites.
Déjà.
Je plaisante pas. C'était à propos d'un fameux retraite où je plaisantais par rapport au Sénat qui était censé pour moi être la maison de retraite la plus dorée de France. Et à l'époque, ils avaient déjà commencé à entamer les droits à la retraite. Et donc, d'avoir été publié quand même pour un ouvrier, c'est que je suis quand même très très fier d'avoir été publié la même semaine dans Télérama et Les Inrocks. Alors maintenant, je voudrais signaler aussi que, hélas, il n'y a plus de rubrique de courrier des lecteurs, ni dans Télérama, ni dans Les Inrocks.
Et ce que tu dis, je fais une parenthèse, mais la question du courrier des lecteurs dans une revue, c'est fondamental. Ce que tu dis là, par rapport à deux revues que tout le monde connaît, moi je l'ai vérifié dans d'autres revues, dans le monde du polar, etc., des revues qui, au départ, ont un courrier des lecteurs qui est en fait un lien avec qui brise en fait l'idée d'un comité de rédaction auto-centré sur lui-même, quoi. En fait, là... C'est souvent un trait d'union avec des échos positifs ou négatifs, peu importe. Et souvent, effectivement, au fil du temps, c'est une rubrique qui disparaît. C'est-à-dire comme si, d'abord, c'était plus important et c'était pas essentiel. Et après, les gens s'étonnent qu'il y ait moins d'abonnés, il y ait moins, etc. Enfin, ça, c'est juste une parenthèse. Je voudrais revenir, donc on voit, il y a quand même eu des tentatives et des réussites de ce point de vue-là à se frayer un chemin sur des routes qui ne sont pas a priori faciles pour quelqu'un qui est ouvrier, qui est à la base, qui se met à écrire et à penser. Je voulais revenir quand même sur les, parce que bon, c'est un peu difficile sur une émission de radio, mais après ils pourront toujours prolonger en allant se procurer ton livre à Publico. Les couleurs utilisées, c'est d'abord le noir et le blanc.
Mmh.
Et puis ensuite le rouge et le noir. Mmh. Tu peux expliquer pourquoi ce choix et ça se fait comme ça naturellement ?
Oui, 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 malheureusement. Enfin, c'est pas très difficile. Je n'ai que ça comme outil. Je maîtrise pas du tout les notions d'ombre et compagnie. Donc, la seule façon de faire ressortir un message graphique, c'est d'utiliser le noir et le blanc. Vraiment, là, c'est sorti du fond de moi-même, quoi. Le but, c'était d'exprimer une émotion, et avec ce que j'avais sous la main. Ça me fait drôle, maintenant, de voir avec le recul que, effectivement, c'est le rouge, le noir et le blanc, ça correspond à des couleurs qui ont été beaucoup utilisées pendant mai 68. Mais moi, à la base, au départ, c'était uniquement pour essayer d'exprimer une émotion. Voilà. Point barre. Au niveau technique, j'avais rien du tout, quoi. Mes mains, d'ailleurs, même mes mains du début, mes mains noires, elles sont un peu tristounes, enfin, elles sont pas terribles, ça correspond pas du tout. Une main, c'est très difficile finalement à respecter les proportions d'une main. Alors après, le rouge, ça c'est quelque chose de formidable, parce qu'on n'est jamais quelqu'un par soi-même et par tout seul. Mes petites nièces, ma frangine a deux filles, elles voyaient mes dessins, et un jour elles me disent, mais tonton, tonton, tes dessins noirs et blancs, tu pourrais pas mettre de la couleur? Ben voilà, ça n'a pas été très compliqué, j'ai rajouté du rouge. Et depuis, effectivement, je n'ai pas trouvé autre chose pour m'exprimer. Mais le rouge était un supplément, et c'est lié à mes petites nièces qui se plaignaient de mon noir et blanc.
Et le choix de la main, c'est aussi une prolongation
Tout à fait, c'est le symbole le plus simple du travail ouvrier, travail prolétaire. Enfin, c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai voulu essayer d'exprimer ça.
Enfin, parmi les réactions que j'ai eues moi, pendant la diffusion de ton livre Ligne de front dont on va parler, j'ai eu deux remarques en me disant c'est une expression stylisée qui aurait pu donner des résultats du point de vue en tant qu'affichiste.
Oui.
C'est vrai que ça interpelle et il y a des vraiment ça percute quoi. Je veux dire ça c'est important à faire ressentir même si nous sommes à la radio. Je sais pas si tu as eu des échanges par rapport à ça.
C'est l'avantage de l'inconvénient, c'est-à-dire que comme mes aptitudes techniques sont très simples, je dois essayer et en même temps une stratégie entre guillemets, je peux pas parler réellement de stratégie non plus, mais je veux dire je pense quand même qu'un message quand plus il est simple et plus il est facile à comprendre pour les autres. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, c'est à partir de ça que j'essaye de... En fait, j'ai même l'impression que plus c'est simple et plus, justement, on atteint les autres. Parce qu'en fait, j'essaye de communiquer ou de partager mes émotions avec les autres. Et la simplicité, là-dessus, c'est très efficace, effectivement, ouais, très efficace.
Et je crois qu'on abordera tout à l'heure en détail un peu cette approche. Nous allons faire une nouvelle pause musicale en écoutant Alain Bashung, Seul le chien. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien.
serre-moi encore. Sors-moi de terre. Serre-moi encore. Je suis cette femme presque belle, presque bien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme, la maman, la putain. Je suis cette femme que le pavé a tué. Je suis cette femme aux mille années volées. Je suis cette femme que les anges ont bannée. Je suis cette femme que la nuit va emmener. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'or. Sors-moi encore. Sors-moi. Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité de la Fédération anarchiste, et à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature consacrée à la littérature ouvrière, paysanne et sociale qui vient d'en bas. Toujours en présence donc de François Lebert, qui nous a expliqué sa trajectoire professionnelle, les chemins de traverse qui l'ont amené à l'écriture, à la fois au dessin et à l'écriture. Et nous allons aborder maintenant ce qui est son actualité, c'est la parution aux éditions Prolis de son ouvrage intitulé « Lignes de front » qui alterne à la fois des textes et des dessins. Est-ce que tu peux nous évoquer la gestation de cet ouvrage, s'il te plaît ?
D'abord, je voudrais juste dire merci aux éditions Prolis et à la revue Fragments, surtout, puisque c'est là le point de départ, de donner la parole à un ouvrier d'usine, hein, puisque c'est ce que je suis à la base. Là, concrètement, ce projet était... Moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est la rapidité avec laquelle il a été exécuté. On l'a évoqué après la rencontre de Laurent Jolin, c'était au début de l'année dernière, je crois. Et en quelques mois, bon, moi j'avais du stock de documents, ça faisait presque 10 ans que j'entassais des textes et des dessins, donc ça là-dessus, bon, il fallait quand même les sélectionner, essayer de les réunir par thème, mais vraiment je trouve que ça a été très très vite, donc ça a été donc évoqué début de l'année, je pense que quelques mois plus tard, ben, j'ai commencé à fournir les documents. Après, de votre côté, il y a eu un gros travail de correction des textes, d'agencement, un gros travail qui n'a pas été effectué par moi. Là aussi, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé aux corrections et à la mise en page. Et puis, donc, après, bah, je crois que ça nous emmène au début de l'été, où là, bah, les documents sont réunis et le travail de la personne qui s'est occupée de la mise en page, et qu'il faut absolument remercier, parce que vraiment, le résultat est très, très beau. Voilà, en gros, ce que je trouve de magnifique avec vous, c'est que vous avez fait un gros travail en très peu de temps, parce que ça s'est déroulé concrètement quelques mois, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais entre le début de la fourniture des documents et puis bah, le livre était prêt fin juillet, fin août, je crois.
Mi-juillet, mais c'est vrai ce que tu souviens, mais c'est parce que ça a été possible, parce que d'abord, le fait qu'on publie un ouvrier, pour nous, ce n'est pas une surprise, puisque c'est notre raison d'être, c'est-à-dire de publier dans notre revue ou à côté, c'est une écriture qui vient d'en bas, donc on se situe dans la filiation historique, Poulaille, Ragon, et des revues qui pouvaient être faites à l'époque. Donc là, on est complètement maintenant T'as raison de souligner, c'est qu'il y a une équipe vraiment, et j'en suis pas nécessairement parti à tous les niveaux, hein. Il y a vraiment une équipe de relecture qui fait un bon travail, et puis il y a eu de manière assidue, et puis la mise en page, une fois que tu avais bien structuré, on va en parler après, ligne de front, le travail de Gilles, qui a fait vraiment un travail de maquette qui est vraiment souligné par... c'est un peu les échos qu'on a, hein, c'est pas du tout pour dire on prend le melon, on a la grosse tête, mais c'est ce travail de maquettiste, que ce soit pour la revue ou pour ton livre, ça a été souligné, quoi. Mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas une équipe d'une dizaine de personnes, quoi. Mm-hmm.
D'accord.
Donc, toi, c'est des dessins, donc ça veut dire que tu as fait une sélection.
Dessins et textes.
Et donc, tu as fait une sélection et tu as fait un choix, déjà au départ, faut peut-être le dire, de alternance.
Oui. Tu veux ? Bah, oui, j'ai. Alors, en gros, bah, mes références, je suis un peu comme Baudelaire. Baudelaire, il écrivait d'écrire un roman. Je dis pas que je serais un grand écrivain, mais bon, quand on écrit un roman, il y a des chapitres. Donc bon, ben voilà, là j'ai essayé de, entre quatre, l'ouvrier, la main, l'usine et la liberté, quatre thèmes forts qui permettent de séparer un petit peu le débit de mon expression. Et donc dans ces quatre chapitres, en plus parce qu'il y a quand même des dessins où on retrouve ces quatre thèmes si on regarde attentivement, où j'ai essayé de mettre ceux qui représentaient le plus l'ouvrier selon moi, le plus la main, le plus l'usine, la liberté. Et puis bah, ça aide un petit peu à structurer un livre et puis à le rendre plus agréable pour les autres. Voilà.
Et est-ce que tu veux dire que ton livre, c'est un, de fait, c'est un réquisitoire contre une réalité que tu as vécue? Ligne de front, déjà, d'accord, c'est un choix d'un titre.
Mm-hmm. Oui, alors là, c'est pour l'anecdote, ligne de front, je l'ai entendu un jour dans cette émission à laquelle je participe aujourd'hui. Donc l'origine du titre, il vient de là. Ça a été employé dans l'émission et j'étais en train de réfléchir à trouver un titre et je l'ai noté. Réquisitoire. Bon, évidemment, il s'est passé quand même des choses très graves et je ne dis pas les choses les plus graves que j'ai vécues. Je suis toujours... Il y a une relative réserve. Bon, il y a des fois, j'y vais très fort. Mais je veux dire, et en même temps, j'ai pas envie de détruire, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai ressenti. Ce sont des émotions que j'ai ressenties. Évidemment, j'essaye parfois de... Mais j'ai vécu des choses que je préférerais même ne pas dire. Hein. Il se passe des choses dans les usines, contrairement à ce que croient les gens, qui sont graves. C'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure. Joseph Pontus en a parlé aussi. Et moi, je peux même dire, quand on parle d'une fatigue, d'être harassé après une journée de travail, pendant 20 ans, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, parce que j'aurais eu honte. Parler de sa fatigue, ça... D'abord, est-ce que les autres auraient compris? Et maintenant, quand j'entends et que je lis Pontus ou d'autres qui parlent de ça, ben, je me dis voilà, que j'étais pas seul. Donc, effectivement, des fois, j'y vais assez fort, mais par rapport à la réalité... c'est pas grand chose. Hein.
D'accord, mais tu n'as pas la sensation d'avoir fait un réquisitoire, mm-hmm, mais quand on lit, mm-hmm, je veux dire, il n'y a pas besoin des 15 volumes de théoricien, quel qu'il soit, okay, pour comprendre ce que c'est que le quotidien,
bien sûr,
dans l'entreprise, mais aussi en dehors, dans l'usine. C'est, je veux dire, il y a des phrases et il y a des dessins, mm-hmm, qui sont clairs, quoi. Je veux dire, c'est là où ça rejoint peut-être le côté affichiste qu'on peut dire. Mais il y a vraiment des... Ouais. Ça n'a pas été fait pour faire passer un message, mais le message, il passe.
Ça, c'est un des compliments. Bon, j'essaye de rester humble et je le suis, mais c'est un des compliments qu'on m'a souvent fait. Alors, c'est drôle, ça rejoint le dessin. À travers mes textes, c'est que je peux exprimer en une page des choses que certains mettent 20 ou 30 et parfois plus. Mais en même temps, je pense, je suis pas seul, quoi. Je le fais pas. Les autres ont vécu les mêmes choses que je parle. Et puis, même moi, je me considère par rapport aux autres. Bon, j'étais toujours un célibataire solitaire, mais imaginez bien qu'une femme avec des enfants, des gens avec une famille, famille, ils ont vécu les mêmes choses que moi, ils auraient sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Donc, même au fond de moi, d'avoir travaillé en usine, comme j'ai travaillé, je me considère... Moi, j'avais un poste qui n'était pas le plus difficile que les autres. Mais il est vrai que dès qu'on travaille dans un cadre pareil, et là encore, Pontus en a parlé, c'est... Tout est horrible, tout est violent. Il n'y a pas uniquement les conditions de travail, il y a la façon dont on dirige les gens, dont on les manipule, il y a tout un tas de choses. Je ne sais pas quoi dire. Hein. Moi, c'est... Et au fond de moi, effectivement, la colère est toujours là. Hein. Ça fait 4 ans que je suis à la retraite, il n'y a rien qui change. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui... Quand je suis parti, je me souviens, sur les bécanes maintenant, il y a des grands écrans, hein, l'informatique est partout. Et donc, à chaque instant, on voit si le type il est en panne, s'il est parti aux chiottes, ou le grand patron, là-haut, dans son bureau, il voit tout de suite... Si... Bon, moi, j'ai eu la chance, je n'ai pas vécu ça. Moi, si je partais pisser 5 minutes, la bécane, bon, elle était plus ou moins automatique. Aujourd'hui, c'est pire, c'est encore pire. Bon, c'est horrible. On vit vraiment dans un monde très, très, très difficile.
Il y a que le cadre de surveillance, avant, c'était des petits chefs qui le faisaient ou pas.
Ils existent toujours, ils sont toujours là. Mais en plus, il y a l'appui de l'informatique et qui fait qu'on ne peut pas y échapper du tout. Parce que, comme je te dis, il y a quelques années, on s'est allé au WC, c'était pas encore, ça pouvait passer. Aujourd'hui, c'est pas possible. Le grand patron là-haut, il voit tout de suite si t'es parti pisser un coup, hein, tout de suite.
Et tu décris cette usine sur la question de la liberté, de l'aliénation, la survie, de la domination.
Oui. Hein. Total.
Et il n'y avait pas, parce que souvent on dit, il y a quand même des résistances autour, par exemple, de sections syndicales qui représentent un collectif. Là, pas du tout. Il n'a pas ressenti tout ça.
Si, mais pareil, avec le temps, ça s'est très, très émoussé, quoi. Je peux le dire, moi j'ai toujours été un élu de base de la CGT, et pendant de longues années, la CGT était plutôt pas mal représentée, mais elle ne représentait pas jamais la majorité, comme dans toutes les entreprises. Les syndicats, ils ont une position qui n'est pas énorme, hein. Donc voilà. Donc il y a eu des dirigeants du syndicat qui étaient plus ou moins efficaces. Certains l'étaient plus que d'autres, mais bon, globalement, la pression de la direction, elle était là.
Ce que tu constates, en fait, c'est ce qu'ont analysé des sociologues, c'est ce qu'à une époque, ou même des militants politiques simplement, ou syndicaux, c'est que le mouvement syndical concret de base, qui était à un moment, quelque part, une alternative de sociale globale, pas simplement quelque chose pour des revendications, mais aussi quelque chose d'une vie commune, un peu, ça s'est effiloché, c'est un peu ce que tu...
Ouais, je pense. C'est plus un rôle représentatif lié aux lois et aux encours. Et puis, en plus, avec le temps, à la fin, il faut être honnête, les élus étaient de très, très faible niveau, ce qui fait que la direction en face, elle pouvait... Moi, je devrais peut-être pas le dire. Moi, je me souviens d'une déléguée syndicale qui connaissait même pas les règles de licenciement d'un ouvrier. Donc, bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. On peut imaginer facilement que la direction, là, en face, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Hein. Donc
un affaiblissement du contre-pouvoir, quoi.
Oui, là, on peut le dire. En tout cas, avec les années, il y a eu des périodes où c'était plus fort que d'autres. Mais en général, ça représente qu'une portion infime. On sait, les chiffres sont là. Le syndicalisme, ça représente très, très peu de gens, malheureusement. Malheureusement, je le regrette
même,
aussi. Mais...
Même dans une période vraiment comme 68, par exemple, il n'y a pas eu quelque chose de...
Ah ben non, mais là, 68, j'avais 8 ans et j'étais pas l'entreprise l'année après, vers les années 75.
Oui,
okay. J'allais chez...
Alors, j'allais 75, prendre... t'es rentré, oui.
Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, j'allais prendre des douches dans l'usine de mon père, donc il travaille dans une usine d'aviation à Emagégère, et je voyais sur les panneaux qu'il y avait des choses au niveau syndical, apparemment, il se passait des choses. Hein. Il y avait des panneaux où c'était très revendicatif, apparemment. Enfin, parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Alors, mon père, c'était l'inverse. Mon père n'a jamais été du côté des syndiqués. Il était là une demi-heure avant, donc il se faisait détester des autres ouvriers. Bon, mon père, il est d'une autre génération. Hein. C'est quelqu'un qui est né en 26. Il n'était pas du tout du côté des syndicats ou de la révolte. Hein. Mais bon, je ne lui en veux pas du tout. Je vous dis, il était d'une autre culture. Il était... Voilà.
Dans la partie 4 qui concerne la liberté, là, tu t'exprimes un peu sur un champ... plus large, que tu dépasses un peu le cadre de l'entreprise.
Bah, Enfin bon, là, ça me paraît évident. Ce que je vis dans l'entreprise... Oh là, ça me rappelle Eddie Louis quand il parle de son père. Quand il dit que les lois de Sarkozy, elles ont des conséquences sur la santé de son père. Ce que je vis dans l'usine, c'est le résultat de décisions qui sont prises à l'extérieur. Hein. On peut pas l'exclure de la société. Alors, ce qui est drôle, c'est vrai, parce que géographiquement, quand je suis à l'intérieur d'une entreprise, je suis dans un cadre fermé. Au niveau des lois aussi, on me dit que... Mais en fait, ce que je vis à l'intérieur d'une entreprise, la société, elle en est responsable quand même. Si j'ai un accident grave... je pense quand même que la société, elle en est responsable. Et j'en ai eu, enfin, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on ne peut jamais écarter complètement ce qu'on vit dans une entreprise de la vie de la société. Ça en fait partie.
C'est une vue globale. Ouais. Je cite quelques titres. Mm-hmm. Cerveau prolétaire, principes et modalités fonctionnelles. C'est que j'invite.
Beaucoup d'humour.
Oui, il y a pas mal d'humour aussi. C'est vrai qu'on a, ouais. On a peut-être pas abordé, mais c'est aussi fondamental. Et je pense que ça contribue à la réception du message. Il y a beaucoup d'humour.
Chris Marker, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Je pense que quand on est complètement désespéré, il n'y a que l'humour qui peut nous sauver. Il n'y a que ça.
De la démocratie participative en zone marchande. C'est un titre qui fait l'humour, pas la gueule. J'avais pas envie comment mettre à mort la classe ouvrière. Je voulais pas crever. Hein, ça rappelle quelqu'un. La France d'en haut vue d'en bas. Il y a des textes qui sont vraiment tout à fait d'actualité. Le bruit et l'odeur. Et tu, on n'a pas dit aussi, mais tu signes aussi Joyeux Prolo.
Mm-hmm. Tout à fait.
Ah bah. Tu peux nous expliquer un petit peu.
Ah bah bravo, bah tu viens parler de l'humour. Là, pour moi, c'est ma plus grande victoire. C'est le plus grand bras d'honneur que je peux leur faire. C'est-à-dire que malgré toutes ces conditions de travail qui ont été pénibles et dures, même si j'étais un petit peu à l'écart, mais je vous dis, dès que vous rentrez dans une. Je peux te rappeler en quelques mots les premières émotions quand tu rentres dans une entreprise. La lumière devient électrique, le bruit devient intense, les odeurs. Et puis bah, le rythme des horaires, enfin, c'est tout de suite, tu rentres dans un autre monde, et la seule façon de ne pas souffrir, il n'y a que l'humour. L'humour, c'est la meilleure façon d'échapper à la violence qu'on subit. Je ne me rappelle plus de la phrase, il y a une phrase de Voltaire qui dit ça beaucoup mieux que moi, où... la meilleure façon de se venger, c'est d'être heureux de vivre. De se venger de ses ennemis, c'est d'être heureux de vivre. Et l'humour, c'est une forme de joie de vivre. Ouais.
Très bien. Alors, nous allons maintenant essayer de donner une idée un peu concrète aussi, parce que on essaye de traduire, de faire passer l'intérêt de découvrir cet ouvrage. Et on va donc, si tu veux bien, François, tu peux nous lire quelques poèmes. Alors on va commencer par l'animal mélancolique.
Parfois, j'ai envie de m'enfuir dans la peau d'un animal, de me lever aux aurores quand la lumière du jour se fait caresse, frémissante, prendre un petit déjeuner de quelques gouttes de rosée et poursuivre mon chemin parmi les herbes hautes, les taillis et les futaies, se faire discret pour sauter sur la proie, juste à ma portée. Puis, lécher mon pelage, lisse et brillant, sous les rayons du soleil. Enfin, rejoindre ma tanière pour m'endormir au creux de la forêt et rêver que je suis un homme, comme celui qui travaille dans la grande usine, là-bas, la grande usine.
Très bien. Alors ça, c'était donc l'animal mélancolique. Et maintenant, nous allons t'écouter avec Éclat de rêve.
Un jour, je deviendrai ce vieil ouvrier. Un homme de ménage, par exemple. Un type qui bosse juste quelques heures par jour pour tenter de survivre avec son petit boulot précaire, et qui dépense le peu qu'il gagne dans des verres d'alcool de réconfort. Ensuite, divagant et zigzagant, je poursuivrai mon chemin, parce que même si la vie est dure, on ne doit pas lâcher le morceau. J'aurai le sourire facile pour les gens qui sont gentils, mais je saurais fermer les yeux sur les pervers et les vicieux. je viderai chaque matin mon litron de mauvais vin, sans oublier tout à fait le goût du café noir et des tartines beurrées. Une seule envie, de jour comme de nuit, celle de me reposer, mais sans jamais y parvenir. Et puis rêver de cette tendresse infinie qui doit bien exister quelque part. Rêver très très fort, jusqu'à ce que le rêve éclate. Parce que l'alcool, ça ne peut quand même pas tout faire oublier.
Merci François, donc pour cette lecture. Je crois qu'on a le temps de que tu nous donnes un troisième texte. Hein. Le pays qui n'existe pas.
C'était un pays étrange que celui-là. Quand j'ai frappé à votre porte, c'est le silence qui m'a répondu. Il ne s'est rien passé. Le néant, le vide, l'absence. Alors, je l'ai pris entre mes bras, ce silence. Je l'ai serré bien fort contre moi. Je voulais en faire un ami. Et je crois que j'y suis presque arrivé. Pays bizarre, étonnant, qui exige que l'on réponde à ses appels, mais qui ne répond pas aux vôtres. Dans les rues des villes, c'était pareil. Alors qu'habituellement, on sonne pour entrer chez quelqu'un, là, c'était l'inverse. Si, d'aventure, en marchant sur un trottoir, une sonnette retentissait, il fallait se rendre à l'invitation. Cela indiquait qu'une personne voulait vous rencontrer, vous recevoir. Et pas question de se défiler, on devait obtempérer. Ne pas le faire était sévèrement puni par la loi. Ah oui, c'était un bien étrange pays que celui-là. Ce pays qui ne nous ressemble pas, puisqu'il n'existe pas.
Merci François pour cette mise en bouche, dirions-nous, qui j'espère donnera l'envie à des auditeurs et des auditrices d'aller plus loin et de découvrir ton travail. Je voudrais donner quelques indications aussi. Le livre contient une préface de Jean-Pierre Levaré, que je vais vous lire. François Lebert est un de ces prolos qui, au sortir de l'armée, se retrouve embauché dans une boîte pour y rester jusqu'au départ en retraite. Ce n'est plus trop dans l'air du temps. Lebert est entré dans une usine métallurgique fabriquant des pièces de cardan pour l'industrie automobile. Une usine sous-traitante, comme il s'en est développé au sortir des années 70. Les années passent et le travail use, tue à petit feu. Pour tenir, François Lebert se découvre deux passions, le dessin et la poésie. Pas une journée sans qu'il ne se confie à une feuille de papier ou à un cahier. Des textes et des dessins qui naissent sans doute lorsque l'esprit s'envole pendant ce travail répétitif. Si c'est le travail qui le fait écrire, il n'est pourtant jamais question des collègues, des petits chefs, de l'usine, des plans sociaux ou du travail en lui-même. Difficile d'apprendre par ses textes ce qu'il en est des gestes du travail, des odeurs et du bruit. Pourtant, François Lebert en parle sans arrêt, toujours à la première personne. Par petites touches, on sent la fatigue, le cambouis, les horaires difficiles, le boucan, la maladie. Lebert a fait le choix de la poésie de combat et de colère vis-à-vis de cette vie gâchée à l'usine. Idem pour ses dessins aux lignes claires, où le noir et rouge sont omniprésents, comme sur un drapeau anarcho-syndicaliste. Outre la colère, il y a aussi l'humour, qui frisote à tout moment, parce que l'humour revendiqué permet de supporter la vie perdue au travail. Il n'y a pas tant de prolos qui s'expriment, alors ouvrons-leur la porte et écoutons-les. Voilà cette préface, et également pour susciter peut-être cette envie d'aller plus loin, dans le numéro 6 de la revue, c'est-à-dire de la revue Fragments, revue littérature prolétarienne, nous avons collationné quelques réactions de lecteurs qui avaient découvert le livre de François, puisqu'il était sorti avant la publication. Hein. Je vais vous lire quelques extraits. Donc, sous l'appréciation de Gérard de Bourges, sans dévier de son sujet, François Lebert nous fait partager son ressenti au cours de sa carrière dans une entreprise de métallurgie. Il est animé d'une flamme vive et droite, convaincu des luttes pour des jours meilleurs. C'est d'un parler vrai qu'il décrit la réalité dure de son travail et qu'il s'en libère avec l'arme de l'humour. Il a le sens, Tim Prévert, du jeu de mots poétiques. Les dessins sont de grande clarté. François Lebert utilise à merveille la combinatoire de signes symboliques en rouge et noir. Son esthétique est d'une redoutable efficacité. Pour terminer, un homme qui cite Raymond Queneau ne peut pas être tout à fait mauvais. De Christophe. Je viens de recevoir Ligne de front. Quel bel ouvrage qui met très bien tes dessins et tes textes en valeur. Bravo aux éditions Prolix et bravo à toi l'auteur. Je possède une centaine de dessins que tu m'as envoyés ces dernières années, mais je ne connaissais pas cela. Tes dessins dévoilent une fois de plus ta maîtrise du trait, des symboles et de la mise en espace. Ils sont évocateurs, forts, puissants, bouleversants. Ils témoignent de tes valeurs humanistes, montrent ta propre hauteur d'âme et démontrent ton propre et immense talent. Voilà, ça, j'ai encore deux petits avis à fournir. De Nicole. J'ai lu le recueil d'écrits de François Lebert, mais comment fait-il pour caler au plus près de la réalité en libérant le rêve en nous? Toute cette vie de travail harassante, rehaussée par le dire, les moments d'abattement ou de conscience du mal-être devenus des vigilances et traits de vie. Ces textes deviennent les nôtres. Ils ont souvent l'impression ironique, voire gaie, qui empêche qu'on s'enfonce, mais ni dupe, ni calmé. Je crois que sa vie de prolo joyeux a été sa première inspiration et que les mille chemins buissonniers qu'il a suivis en peinture, poésie, philosophie et autres l'ont rendu universel. Le dessin, incisif pour battre le fer tant qu'il est chaud, il y a là même urgence à le découvrir. Et je terminerai par un petit extrait qui est paru dans Le Monde libertaire de Bernard. En découvrant la couverture du livre Ligne de front de François Lebert m'est venue spontanément la chanson de Montéus, Une main noire. La quatrième de couverture m'apprend que l'auteur, ouvrier métallurgiste, malade d'avoir trimé comme un prolétaire qu'il est, avait pensé à cette main noire de travailleur. Une main, ça peut parler, ça peut tracer, ça peut écrire. Alors, j'ouvre le livre. Ne pas reproduire le même geste comme à l'usine. Des textes de toute forme, de toute taille, qui nous décrivent le monde de l'usine des ouvriers. Ce pourrait être un énième livre témoignage face aux patrons, petits chefs et autres dirigeants. François Lebert a mal à sa chair et à ses pensées quand il se met à faire parler sa main noire. « Je préfère jouer avec mon désespoir que d'en être le jouet », dit-il. Alors c'est noir, grinçant. Ça joue de la dérision. Ça a le sourire qui mord. Et, petit faible pour un texte où il explique, citation, « Pour chier, il faut bouffer. Et pour bouffer, il faut en chier à l'usine, juste pour avoir un peu de quoi bouffer. Donc, si je dis à mon patron, vous me faites chier, ce n'est pas une insulte. Et donc, je peux même le remercier pour ça. » Ne pas conclure sans parler des très nombreux dessins, tout en noir et rouge, au symbolisme puissant. Art brut de révolte, pour accompagner ces textes dignes d'être de la grande famille de la littérature prolétarienne. Alors voilà ces quelques extraits, et nous allons faire une nouvelle plage musicale en écoutant Jacques Brel, Ces gens-là.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, offre selon sa montre, on s'en prendra pas le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission Et pourtant, elle existe, cette littérature. Et cette émission du mois de mai est entièrement consacrée à François Lebert pour son travail depuis de longues années, et notamment pour la publication de Lignes de front, qui regroupe, comme nous l'avons évoqué, des dessins et des textes qu'il a écrits tout au long de sa vie d'ouvrier métallo. Alors, je vais, pour conclure sur cette question, je vais quand même vous relire un autre avis reçu à la revue, hein, revue Fragment, revue de littérature prolétarienne. Donc, c'est un avis de Didier qui a lu le livre de François. C'est clair, pour devenir un ouvrier métallo, il faut avoir un caractère bien trempé, trempé dans le sang et les larmes, même aussi plein de révolte. Les hommes révoltés sont des enfants de 7 à 77 ans. Ils ne s'accrochent pas aux basques du mensonge capital, ils ne marchandent pas leurs quatre vérités avec des marchands de canons, de conscience. C'est drôle, en France, il y a de moins en moins d'emplois, et ceux qui en ont encore un se suicident. Et plein d'humour. Quand on regarde le monde comme il va, on se dit que pour survivre ici, notre sens de l'humour va être sérieusement sollicité. Alors, si on doit y passer, autant mourir de rire. Signé le joyeux prolo et homme de paix, P-E-T. Témoignage manifeste, œuvre mémorielle et poétique, ces lignes de front sont à la fois celles du front de l'auteur comme celles du front, illustrées par l'usine, au lieu de la lutte de classe qui ne cessera que le jour où les classes cesseront. Un livre pour la mémoire, pour le plaisir, pour la poésie et l'humour. Un livre à regarder et à lire encore et encore. Il est à noter l'extrême qualité d'impression, le travail généreux et précis des lecteurs. du Cercle culturel de littérature ouvrière paysanne et sociale, cité en remerciement. Voilà, c'était l'avis de Didier. Et je voudrais souligner que pour ceux qui souhaiteraient mieux connaître encore François Lebert, dans le numéro 4 de la revue Fragments, nous avons consacré un dossier à François qui a été présenté par une analyse déjà réalisée par Philippe Geneste, un texte qui s'intitule, j'oublie pas, « À travers l'œuvre de François Lebert, une définition de l'art prolétarien », qui a été fait par donc Philippe Geneste, un désespoir d'anthologie qui ont un entretien avec François Lebert, toujours réalisé par Philippe Geneste et Animas. Voilà, il y a aussi un certain nombre de poèmes et de textes et de dessins qui permettent d'approfondir un peu le travail présenté par François. Alors, là, nous allons faire une petite parenthèse sur les projets de revue, hein, de la revue Fragments. Je rappelle rapidement le numéro 6 qui est en cours de diffusion, que vous pouvez trouver à la librairie Publico, qui est le monde du travail en photo, avec un texte, une illustration de Lily Franet, qui fait une enquête photographique à la SNCF. Souvenir d'un gamin de Paris de Franck Thiriot, qui est la suite de textes que nous avons déjà publiés auparavant. C'était hier, presque, et autres textes de Didier Trumeau. Aussi, un ouvrage, une présentation d'un ouvrage qui va sortir en mai 2023, Tête haute, de Cathy Itac. Ensuite, des poèmes, l'étude qui est poursuivie par Philippe Geneste, qui fait un travail, je l'ai déjà dit ici, sur cette antenne de Bénédictin, avec qui s'intitule « Lecture prolétarienne 1970-2020 ». C'est la quatrième partie, c'est un recensement, non pas simplement de titres qui sont publiés, mais vraiment un recensement de livres, de recensions, de présentations de textes, d'analyse des ouvrages présentés, et qui, pour moi, est vraiment un travail qui poursuit ce que Poulaille a fait en son temps, ce que des gens comme Pruniot ont fait, ce que Michel Ragon a fait, ce que Thierry Maricourt a fait, et il y a vraiment... sur une période qui est plus récente, qui vaut vraiment le détour. Il y a aussi la reprise d'un entretien que j'avais eu sur cette antenne avec Sarah Agmatari à propos de la littérature prolétarienne, qui est présentée sous forme d'entretien. Des textes de Pascal Blondiot, un ancien de la SNCF, qui vit désormais du côté de Vendôme, qui sont des textes, moi, que j'aime beaucoup. Un petit dossier sur le théâtre prolétarien, avec, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on abordera de manière plus approfondie, hein, mais la littérature prolétarienne, l'expression qui vient d'en bas, ça se limite pas à l'écriture ou au dessin. Il y a aussi le théâtre, il peut y avoir la musique, et là on aborde de manière très succincte le théâtre prolétarien avec un texte de Charles Bontou-Morin, qui était un postier publié dans les années 30 par Poulaille dans ses revues, et on travaille aussi un ouvrage sur la Poste à partir d'écrits, donc dont un texte de Charles Bontou-Morin, qui avait écrit un texte sur le théâtre prolétarien, et c'est suivi d'une pièce de théâtre de Thierry Maricourt, hein, qui s'appelle Les Grands Cœurs. Voilà, ça c'est ce qui est en cours de diffusion. Ce qu'on peut encore trouver en courant à Publico, sinon et dans d'autres librairies de la région parisienne ou ailleurs, hein, ou sinon en écrivant à notre adresse, hein, je rappelle, on peut écrire à CLOPS, hein, CCLOPS, 79 rue du Docteur Roux, 79 rue du Docteur Roux, 95 130, Franconville-Lagarenne. Donc voilà. Alors, au sommaire, je ferai... très très rapide, hein. Nous avons un numéro 7 qui va paraître, hein, avec la suite des textes de Philippe Jeunesse sur cette étude de littérature prolétarienne, hein, parce que je rappelle quand même que l'objectif de la revue et même des éditions, et là on l'a prouvé avec Ligne de front de François Lebert, c'est de montrer que la littérature prolétarienne, ce n'est pas une littérature venue d'en bas qui se conjugue au passé, mais qu'il y a un travail mémoriel à faire, faire découvrir, et on en fera redécouvrir, des auteurs d'hier, qui ont parfois qui ont été oubliés ou peu diffusés, mais aussi montrer qu'il y a des gens, et ça, à chaque numéro de la revue, il y a des gens qui viennent d'en bas, qui exercent différents métiers, et qui produisent des textes, des réflexions, et c'est ça la vocation, je dirais, l'objectif de notre démarche depuis début 2020. Et on peut souligner d'ailleurs que, modestement, notre petite audience se poursuit, et avec des objectifs aussi pour 2024, mais on y reviendra, notamment avec l'organisation d'un colloque, sans doute sur Paris, consacré au centenaire de la naissance de Michel Ragon, avec pas mal de participants venus d'un peu partout, et on reviendra, intervenants, mais aussi sans doute photos et diffusion de vidéos. Donc voilà, je vais pas développer aujourd'hui sur le numéro 7, puisque nous reverrons au mois de juin, hein, avec là aussi, je pense, un invité qui nous parlera de la réédition de Mélène, de René Berthelot, un livre qui est paru par l'Association pour la promotion de la littérature ouvrière, hein, que nous diffusons également. Et on espère que quelqu'un de l'association sera présent ici pour que nous évoquions cette publication. Et c'est un livre aussi qu'on peut trouver à Publico. Alors, nous allons maintenant aborder... Avant notre dernière plage musicale, nous allons aborder la mise en musique. Nous avons déjà parlé dans la revue et à cette antenne de Joseph Pontus, hein, 1978-2021. Donc nous allons vous parler d'une initiative qui a été prise. Enfin, François va vous rappeler qui est Joseph Pontus et pourquoi il y a une actualité audio en ce qui concerne son travail d'écriture.
Bon, Joseph Pontus, je pense que pas mal d'entre vous devaient le connaître. Donc c'est un type qui, par obligation, il était travailleur social, il vivait en région parisienne, et un jour, il est parti en Bretagne pour suivre sa compagne, et ne trouvant pas de travail, il a trouvé à s'embaucher dans l'intérim et dans des abattoirs et dans le monde agroalimentaire breton. Et donc il a écrit un livre qui a eu du succès, qui parle de ce qu'il a vécu, de ses souffrances. Et en 2020, il y a un chanteur qui s'appelle Michel Cloup qui a eu l'idée, qui est tombé amoureux de ce texte. Alors ce texte a eu beaucoup de conséquences, il y a aussi beaucoup d'interprétations théâtrales, donc des mises en scène et des lectures. Et là on parle de musique, c'est Michel Cloup avec deux comparses, Pascal Boisiz et Julien Ruffier, qui ont fait un CD, donc qui s'intitule « À la ligne, chanson d'usine », d'après le roman de Pontus. Donc c'est entre lecture et chanson. La musique, c'est beaucoup d'énergie, avec des guitares et des claviers, qui retraduisent les images sonores de l'univers vécu par Pontus. On entend même sa voix dans une des chansons. Il y a aussi des collègues de Pontus qui ont participé à ce CD. Et ça doit certainement lui faire... Bon, il est décédé, malheureusement, hein, vous le savez tous. Ça doit certainement lui faire plaisir, parce que Pontus pensait à la chanson quand il vivait ses moments difficiles. Il disait que pour lui, la plus belle de toutes les chansons, c'était la folle complainte de Trenet. Comme Daniel Darc et Jacques Higelin considéraient que cette chanson était... Parce qu'effectivement, Brel ou Barbara, quand on travaille dans un endroit tristoun, c'est un peu trop, quoi. Et moi, je me rappelle que j'avais le texte de l'ivrogne de Brel sur ma machine au début à l'usine. Bon, voilà. En fait, il faut absolument écouter ce CD. Il est vraiment magnifique. Et si vous avez aimé le livre, vraiment, il ne faut pas se gêner. Il faut l'écouter.
Voilà, alors nous aurons l'occasion de l'écouter, d'écouter un extrait, hein, à l'abattoir, à la fin de cette émission. Je voudrais présenter maintenant quelques livres qui me semblent importants de signaler. Un qui va paraître normalement en ce mois-ci, hein, dont nous avons publié quelques extraits dans le numéro 6 de Fragments. Ça s'appelle « Tête haute » de Cathy Itak. C'est aux éditions Talent Haut. Et personnellement, je pense que les extraits qu'on a publiés donnent envie d'aller plus loin. Et c'est un ouvrage qui est consacré à une grève que les syndicalistes révolutionnaires et sans doute d'autres connaissent bien. C'est la grève des sardinières dans les conserveries de Douarnenez, hein, en 1924, et qui est un retour sur cette lutte de femmes, hein, une lutte, une des grèves sans doute les plus importantes des femmes au début du XXe siècle. Donc, je répète, hein, Tête haute de Cathy Itak, aux éditions Talent Haut. Vous pouvez sans doute déjà en parler avec votre libraire préféré. Je signale, je re-signale, parce que je les aime bien déjà, c'est aux éditions Plein Champ, le cahier numéro 11, le cahier Henri Poulaille. C'est un texte, donc les cahiers Henri Poulaille sont publiés conjointement par les amis de Plein Champ, éditeurs, et par les amis d'Henri Poulaille, qui propose un numéro 11 consacré aux relations tissées entre Poulaille et le peintre Joseph Lacasse. C'est un volumineux dossier, hein, de 270 pages avec un bel ouvrage, une superbe iconographie, et c'est une initiative éditoriale à saluer. Le dernier cahier daté de 2007 et il était consacré à la correspondance entre Émile Guillaumin et Henri Poulaille. Je fais une petite parenthèse par rapport à Émile Guillaumin. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de visiter récemment la maison familiale dans laquelle, sa deuxième maison, à Ygrande, hein, dans l'Allier, dont il est originaire, et où il a écrit La vie d'un saint, mais je crois que nous y reviendrons, sur la place de ces petites maisons, je les dis petites parce que elles sont souvent gérées par des municipalités, donc il y a ces elles sont parfois situées, elles sont dans des lieux où il y a peu de passages. Donc, il y a tout un travail de maintien d'une mémoire, de présentation, mais qui donne des difficultés. J'en reparlerai du musée Guillaumin à Ygrande. Et juste à côté, à 13 kilomètres, il y a Sérilly, qui est le village d'où est originaire Charles-Louis-Philippe. Hein. Charles-Louis-Philippe, auteur prolétarien, hein, qui montait à Paris, qui était employé et qui est mort prématurément, assez jeune, hein, à 35 ans si ma mémoire est bonne. Et là, il y a sa maison natale, on peut visiter de temps en temps, mais c'est pareil. En 2019, il y avait eu 52 visites. Donc, et j'ai discuté un peu avec les gens la personne qui vient de la municipalité pendant quelques heures. C'est ouvert en général que l'été, quand il y a des touristes qui passent, mais ça, je pense que ce type de lieu implique une réflexion pour voir comment il est peut-être possible de faire qu'un jour ces lieux ne disparaissent faute d'une activité suffisante et quel type d'activité on peut susciter autour d'eux pour, de temps en temps, je ne dis pas tous les quatre matins, mais pour faire que ça perdure et qu'il y ait une transmission générationnelle, intergénérationnelle. Or ça, c'était pour l'œuvre Henri Poulaille, Joseph Lacasse, c'est Plein Champ. Un autre point que je dois signaler aussi, c'est le Centre de littérature prolétarienne de Cachan, hein, qu'on a appelé aussi Centre Henri Poulaille, qui refonctionne depuis quelques mois. Il y a eu un colloque, dans le numéro 7 d'ailleurs de notre revue, on fait un compte-rendu et un état des lieux du centre Poulaille depuis ses origines. Et en ce moment, on peut s'y rendre. Il y a une activité, hein, qui est limitée peut-être dans le temps, mais il y a un fonds Poulaille qui est vraiment impressionnant à consulter, où il y a des tas de documents. C'est fantastique de découvrir ça. Il y a cinq ou six pièces avec ces classeurs qui me faisait avec des coupures de presse, ce qui concerne ses revues, etc. Donc, c'est quelque chose aussi, c'est le centre Henri Poulaille à Cachan, il suffit de s'adresser à la municipalité pour découvrir ce lieu et le faire vivre aussi, parce que là aussi, il est important. Je finirai par un dernier livre, c'est Amédée Dunois aux éditions Plein Champ, avec un texte d'Émile Guillaumin suivi. Le premier texte d'Amédée Dunois, c'est sur la lutte des bûcherons avant 1914 dans Nivernais et l'organisation du syndicalisme. Et l'autre, c'est la réédition d'un texte d'Émile Guillaumin, donc, qui a été paysan toute sa vie, et qui s'appelle La peine des chaumières, et qui est disponible, là aussi, aux éditions Plein Champ. Voilà, je crois que nous allons finir là pour aujourd'hui. On va se donner un rendez-vous pour le mois de juin, hein, où là, on devrait, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, aborder la question de l'ouvrage de René Berthelot, réédition. Hein, René Berthelot, rappelons-le, a été mineur, hein, mineur de fond. Hein, donc, rappelons-le, dans les années 50, quand on écrit après avoir bossé au fond de la mine et qu'on trouve le courage de mettre sur le papier le soir, des fois, des petites quantités des petites revues, comme la plume et la bêche, ou non, c'est pas la plume et la bêche, mais on y reviendra. Et on reviendra aussi sur le décès de Philippe Bouquet, qui a traduit beaucoup d'auteurs suédois, donc qui est décédé récemment. Nous reviendrons tout ça au cours de la prochaine émission de Et pourtant, elle existe, cette littérature, qui aura lieu en juin. Merci aux auditeurs et aux auditrices de Radio Libertaire de nous avoir écoutés. Et nous vous saluons pour aujourd'hui.
À l'abattoir, j'y vais, comme on irait à l'abattoir.
Les poissons et bulots, les plats cuisinés et tout le reste autrefois me semblent aujourd'hui inoffensifs, chantillés, doucereux, même si le boulot était dur.
Tout est rouge de sang et blanc de gras. L'usine est immense, monstrueuse.
Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave, un chef me dit atelier, découpe, porc. Je le suis.
La porte s'ouvre et du sang partout. Le premier truc, le sang.
Des lambeaux de cochon partout. Et pas des lambeaux, des groins, des travers, des pieds et du gras de cochon partout.
Je me dis, mais tu croyais quoi, bonhomme? On t'avait bien dit que tu allais devoir nettoyer un abattoir.
Je bouffe du sang au sens propre et le sang dans ma bouche se sent de cochon. Projection et contre-coup du jet haute pression.
Des portes s'ouvrent et je vois des centaines et centaines de cochons accrochés, des cochons découpés dans tous les sens et des tas d'autres trucs qui m'achèvent quand je ferme les yeux.
On baisse la barre de pantalon devant les petits chefs. On baisse... baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom le nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
En vrai, les petits chefs, c'est tous des pétochards qui serrent tellement les fesses devant la direction que tu pourrais même pas mettre un suppositoire. Quand on est trop du tchu, on le reste pour de bon. C'est jamais de leur faute, sont jamais responsables. Eux font que leur travail, c'est la faute au patron. Pour nous, un collabo, c'est jamais fréquentable. Quand on est à côté, ça nous donne des boutons.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom le nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
Mélanger à mon passé, à mes ennuis de chaque jour. Pour cette fois, vous ne m'aurez pas. Adieu, ma vie, tout en dentelle, à l'ombre de la Eiffel. Adieu ma vie, je me retourne pas, je n'ai pas un seul regret pour toi. Je t'aimais pas, je t'aimais pas. J'ai rencontré le grand amour et... Vie tracée d'avance, ce petit chemin qui va tout droit. À moi les horizons immenses, respirer en ouvrant les bras, pouvoir chanter, pouvoir chanter, aimer sans plus penser à rien, sans lendemain, sans aucun lien. D'un jour à l'autre, tout comme ça vient. Adieu. Tire pour toujours, j'ai rencontré le grand amour et je ne veux pas, et je ne veux pas le mélanger à mon passé, à mes ennuis de chaque jour. Pour cette fois, vous ne m'aurez pas.